This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Peut-être qu'il faut se poser des questions plus tôt, tu vois, plus en amont et se dire, attends, en fait, qu'est-ce que tu aimerais bien faire?
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
La mauvaise solution, c'est de glisser de l'alimentaire dans ton boulot de passion. J'ai besoin de croire que personne ne va venir, sinon c'est super paralysant. Mais l'idée que des gens que je connaisse puissent le voir, j'étais mortifiée en fait.
Eh bien, bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir sur Nouvelle École.
Ben non, mais merci de m'inviter.
Je suis hyper content de t'accueillir parce que j'aime vraiment bien tout ce que tu as fait. Et j'ai découvert avec Culotté, que j'ai offert à ma petite sœur du coup.
Très bien.
Et que j'ai offert d'ailleurs aussi à ma cousine à Noël. J'ai offert à...
Génial.
Après, j'avais plus d'argent. Alors après, j'ai fait comme dans tes BD, j'ai offert des dessins, des trucs, des colliers de nouilles et tout. Et notamment, j'ai aussi adoré, mais alors vraiment adoré parce que j'ai découvert sur le tard... j'ai oublié le titre. Ma vie est tout à fait. C'est ton premier bouquin. Ma vie est tout à fait.
Ouais.
Adapté de ton blog.
Ouais.
Comment c'est quoi le titre?
Ma vie est tout à fait fascinante.
Ouais, j'ai trouvé ça génial. Ouais, j'étais super.
C'est la meilleure matinée.
J'étais super touché en fait par ce bouquin. Ça m'a vraiment fait marrer et tout quoi. Je me suis dit c'est marrant, c'est son premier, mais
ouais, c'est cool,
ça m'a fait. Je l'ai lu d'une traite.
Bah, super.
Et donc voilà. Donc je suis très content de te recevoir sur Nouvelle École. Donc Pénélope Bagieux, je rappelle un peu qui tu es. Alors sur Wikipédia, ils mettent illustratrice et dessinatrice de BD, je te la mets pas un peu pareil?
Ah non, pas du tout.
Ah.
Non. Explique-moi. Illustratrice, c'est bien qu'on en parle, un bon point important. Quand t'es illustrateur, t'illustres un truc, genre un article, une couverture, tu vois. Tu fais un dessin par rapport à quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Quand t'es dessinateur de BD, tu racontes une histoire en BD en fait. C'est pas du tout le même métier.
D'accord.
Moi, par exemple, je fais plus du tout d'illustration. Je suis pas illustratrice.
Ok, donc dessinatrice, en fait, c'est la personne qui fait tout, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'au lieu de l'appliquer à quelque chose, genre, j'ai fait une illustration pour une campagne de pub. Tu dis, j'ai dessiné une BD, en fait. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tu l'as écrite, mais ça veut dire.
C'est un peu comme si tu étais réal au cinéma.
C'est un peu comme si tu étais réal au cinéma, ouais.
Voilà. Ok. Ben voilà, donc je suis très content de savoir ça. Donc, tu es dessinatrice de BD maintenant.
Ouais.
Et ça fait depuis. 10 ans en fait, que tu sors des BD, tu avais créé un blog qui s'appelait Pénélope Jolicoeur, sur lequel tu partageais tes petites histoires qui ensuite sont entrées dans ce bouquin, qui était Ma vie est tout à fait fascinante, ça.
Mm-hmm.
Okay. Et ensuite tu as sorti tout un tas de BD, notamment Joséphine, qui a été adaptée en film, dont tu as fait 3 tomes. Il y en a un que j'ai lu là récemment qui s'appelle, j'oublie toujours les titres, c'est vraiment une catastrophe, Cadavre...
Exquis,
mm-hmm. que j'ai pareil lu d'une traite.
Ah, cool.
Et en fait, c'est le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de notes pour pas les regarder, pour passer l'interview à parler avec la personne, et après j'oublie tout. Et tu as fait notamment récemment Culotté, qui est donc un recueil d'histoires de femmes que l'histoire a un peu oubliées ou effacées,
mm-hmm.
et qui sont en fait des femmes super badass, qui vont faire en fait toutes les choses qu'on aurait tendance à faire aux hommes dans la littérature en général, quoi. Ou dans la représentation artistique de... Non, c'est pas ce que t'aurais dit ?
Si, mais j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que... Ouais.
Bah, j'avais l'impression que tu prenais un peu le contre-pied, genre il y a aussi plein de femmes qui font des choses comme ça.
Non, mais le fait que tu dises elles font des choses que, en principe, en littérature, les personnages masculins font, c'est marrant. Comme, tu vois, l'audace, la détermination, c'est vrai qu'en littérature, c'est des traits de caractère masculin.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, tu as sorti deux tomes de Culotté. Et là, ça va faire une dizaine d'années que tu dessines. Et en fait, la première question que je voulais te poser, parce que je regardais toute ton œuvre et le fait que je trouve que tu arrives assez bien à te renouveler, à changer de sujet. Tu vois, j'ai pas l'impression que tu t'es encore enfermé dans un style ou quoi que ce soit. Et c'est une vraie problématique que j'ai, notamment en ce moment, de me dire comment je fais pour pas tout le temps faire la même chose, notamment avec ce podcast ou avec d'autres trucs, tu vois, pour essayer de changer et de pas m'ennuyer. Et je voulais savoir comment tu fais, est-ce que t'as cette réflexion, en fait?
Non, je pense que la différence entre, par exemple, faire un podcast et faire une BD, c'est que c'est très très long de faire une BD. Alors que des podcasts, je pense que t'as moins l'occasion de t'auto-emmerder, de t'ennuyer dans ce que tu fais parce que tu vois une personne différente toutes les semaines, par exemple. Quand tu fais une BD, tu vois la même personne tous les jours pendant 2 ans, en fait. Donc, de toute façon, une fois que t'as fini avec cette personne, il est hors de question que tu passes 2 ans avec une personne qui lui ressemble encore juste après. C'est-à-dire que à partir du ventre mou de la création d'une BD, c'est-à-dire le milieu. Parce que le début, t'es super excité parce que ça vient de commencer. À la fin, c'est bon, tu touches au but, donc t'es à fond. Mais le milieu, c'est vraiment la traversée du désert. Et en général, à partir de ce moment-là, tu commences à avoir très 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 envie de ton truc d'après, qui va être super différent. Et tu dis, ok, typiquement pendant les culottés, après m'être tanké la lecture d'autobio pendant 1 an, je peux te dire que vers novembre, je commençais à me dire, ok, donc après c'est bon, je fais plus jamais de biographie en fait. Et ça permet de te renouveler assez naturellement, c'est qu'en fait, sinon tu t'ennuies et t'en peux plus de voir ce que tu dessines. Tu t'auto-soules en fait parce que tu te dis, en plus tu commences à même toi observer tes propres tics d'écriture. Tu vois, tu t'auto-énerves, tu te lis, tu fais allez, hop, même phrase que d'habitude, même structure et tout. Donc t'es obligé de te renouveler parce que c'est un travail trop lent pour que tu puisses te permettre d'être redondant, je pense.
Ouais, mais par exemple, s'il y a des choses qui ont du succès, mettons en Culotté, je crois que c'est un de tes livres qui a le mieux marché. Mm-hmm. T'as fait Culotté 2. Et est-ce que, est-ce que tu vas faire Culotté 3 ou à quel moment tu te dis, oh là là, je peux plus faire Culotté, tu vois? Parce qu'après, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu du genre, c'est aussi, je pense, agréable de faire quelque chose qui marche hyper bien ou qui a vachement d'effet sur les gens qui le lisent.
Ouais, alors, 2 trucs. Culotté 2, c'est pas une suite. C'est que moi, au début, j'ai dit il y aura 30 portraits et mon éditeur a dit ça va faire un trop gros livre, on va le couper en 2. Donc, je me suis pas dit j'en fais un 2, puis qui sait, peut-être un 3.
D'accord.
Et pour le coup, j'avais une certitude quand il est sorti, c'est qu'il n'y aurait pas de 3. C'est vraiment sûr et j'en suis certaine, je ferai jamais de suite à ça parce que j'avais dit qu'il y en aurait 30, tu vois. Effectivement, mon éditeur a quand même essayé, tu vois. Il a quand même tenté le coup de me convaincre d'en faire un troisième. Mais
t'as pas eu de tentation d'en faire un troisième.
Mais non, parce qu'en fait, rien que d'imaginer ressortir le fichier de départ pour refaire une histoire de plus, j'ai un frisson, tu vois, de oh non, je peux plus. J'ai vraiment passé trop de temps à le faire. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment j'ai que des métaphores sales à base de bouffe, en fait, de vieille bouffe à remanger, mais tu peux pas te dire écoute, oui, c'est chiant de le refaire, mais bon, ça marche. En fait, c'est après, évidemment, tout ce que je dis, c'est du discours de c'est des problèmes de riches, tu vois. Je pense que si vraiment mes livres, ils marchaient pas beaucoup, le jour où j'en ai un qui marche enfin un peu et que j'arrive à en vivre, évidemment que je m'engouffre là-dedans, certainement, tu vois, je peux pas savoir. Je peux aussi me permettre de pas faire de trucs qui me font chier, donc voilà. Mais en fait, je l'ai quand même plutôt toujours fait, c'est-à-dire, tu vois, typiquement Joséphine, j'en ai fait 3 tomes et je me suis éclatée pendant 3 ans. Et vraiment, à la seconde où je commençais à me faire « Ah, c'est lundi », parce qu'en fait, je le devais rendre une planche tous les lundis parce que c'était prépublié. La première fois que je me suis dit « Oh, putain, c'est lundi, fais chier », je me suis dit « Ok, donc il faut en fait arrêter ». Déjà parce que je pense que ça se ressent sinon à la lecture, quand c'est poussif, tu vois. Il n'y a rien de pire qu'une série interminable où tu sens que vraiment les mecs en peuvent plus et que... Saison 8, c'est vraiment...
Genre How I Met Your Mother.
Putain, c'est marrant, j'étais en train de me dire le syndrome How I Met Your Mother. Ah, quoi.
C'est terrible, How I Met. Mais c'est vraiment, pas grave. C'est excellent, 2-3 saisons, c'était bien, 4-5 saisons, et après c'est fou.
Et t'as vraiment envie de leur dire, c'est pas grave les mecs, tu vois, je suis sûre que vous pouvez trouver du travail ailleurs, en fait. Faut pas s'acharner comme ça, parce que tout le monde s'en rend compte, hein. Donc arrêtez. Et puis même, encore une fois, c'est un travail trop lent, et trop besogneux la BD, pour que tu puisses te dire... Tu peux pas te dire... Et tu sais quoi? Allez, je me force un coup, et puis, hop, je le torche en quelques mois. C'est pas possible parce que c'est vraiment, c'est, bon, après, j'ai pas fait d'autres métiers, je peux pas comparer, mais il faut vraiment un dévouement, tellement, complet, parce que c'est beaucoup d'heures par jour, tous les jours, pendant une très longue période, et imagine à dessiner la même putain de personne tous les jours, quoi. Si t'en peux plus, c'est vraiment une très mauvaise idée de te forcer. Donc, et puis en plus, jusqu'ici, à chaque fois que j'ai fait un truc différent, ça a marché. Et typiquement, au tout début, quand j'ai sorti, par exemple, Cadavre Exquis, eh ben, une de mes inquiétudes, c'était que Joséphine, ça avait toujours bien marché, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, il faut que je me prépare à l'idée que mon bon succès commercial est derrière moi, tu vois. J'ai eu de la chance, ça a marché une fois, c'est cool. Avec un peu de chance, parce que par le système des vieilles ventes de tes anciens livres, t'as une espèce de petit ronronnement qui fait que t'es jamais complètement à poil quand t'as sorti d'autres livres avant. Donc je me disais, écoute, au pire, c'est pas grave, c'est derrière moi. Puis en fait, Cadavre Exquis a bien marché. Et puis maintenant, donc après 10 bouquins, ben, je me dis, il faut pas te dire qu'en tentant un nouveau truc, tu prends le risque que ça marche moins bien, parce que en fait, a priori, la tendance naturelle des choses, c'est que plus de gens te connaissent, donc il y a quand même de grandes chances que dans le tas, il y en ait mathématiquement un plus grand nombre qui aime bien ce que tu fais après.
Ouais, il y a un auteur américain que j'aime bien, donc je crois que c'est Ryan Holiday, qui dit la meilleure manière de faire marcher ton bouquin que t'as sorti, c'est de sortir un autre bouquin ensuite.
Ouais,
parce que
fait,
ça va ramener des nouveaux fans.
Ouais, c'est ça. Quand t'es dans une dynamique un peu saine comme ça et un peu vivante de produire régulièrement, ça veut pas dire tous les ans, tu vois. Moi, je suis hyper admiratif des gens qui font un livre par an, mais d'être toujours dans une espèce de, ouais, de dark, où tu continues à faire des choses qui t'emmerdent pas. Je pense que tu peux pas complètement te planter. Après, maintenant, je me dis, ouais, bon, de toute façon, mon livre qui aura le mieux marché de ma vie, c'est Les Culottés, tu vois. Je pourrais jamais reproduire ça.
Ah ouais. T'aurais été prête au moment où t'as arrêté Joséphine à ce que finalement plus rien ne marche autant et que tu continues à dessiner quand même. T'aurais jamais eu la tentation de refaire un truc, un Joséphine 4, par exemple?
Eh ben, tu sais, vraiment très honnêtement, non. Peut-être que du coup, si mon projet d'après avait pas marché, je me serais posé des questions pour celui d'encore après, mais je pense qu'il aurait quand même été différent. C'est que j'ai vraiment, en fait, je m'ennuie hyper vite, mais pas que dans le boulot, dans tout. Et du coup, ouais, je pense que vraiment ça me fatiguerait. Et puis, c'est difficile de te forcer en BD quand même, je trouve. Dans ces cas-là, je pense que j'aurais carrément refait des boulots de commande à côté, tu vois, pour me changer les idées pendant quelques années, plutôt que de me dire, bon, bah écoute, à la limite, fais une BD où tu sais qu'au moins, t'auras un bon avaloir, et puis, tu vois.
Bah, ça te prend combien de temps de faire une BD en général?
Bah, ça dépend.
Enfin, ça dépend de la taille du projet, j'imagine.
Ça dépend, en fait, surtout dans quel contexte j'ai décidé de la faire dès le début, c'est-à-dire quand c'est des trucs prépubliés, c'était le cas de Joséphine, c'est le cas des Culottés, ça va hyper vite parce que quoi qu'il arrive, je dois rendre une planche par semaine, voire une histoire entière par semaine avec les Culottés.
Donc la contrainte a un côté positif pour la
productivité.
Moi,
il n'y a que ça qui marche avec moi.
Ah ouais, ah ouais.
Sinon, sinon, là, tu vois, typiquement, ça fait un an qu'il faut que je commence une page, quoi. Donc, il n'y a que ça qui marche.
T'as jamais rien publié sans avoir de deadline, vraiment
Alors, il y a un truc particulier, c'est qu'en général, sur mes contrats, il n'y a pas de date. Parce que ça m'angoisse. Donc
tu demandes spécifiquement à ce qu'il n'y ait pas de...
En fait, ça m'oppresse. Parce qu'une date, pour moi, ça veut forcément dire que je vais la rater, que je ne vais jamais y arriver. Et que du coup, ça va être une déception pour tout le monde et que ça va me réveiller la nuit, etc. Donc, il faut qu'on fasse semblant qu'il n'y a pas de date. Il y en a une qui est tacite, tu vois. Mais... Et il y a un truc aussi, c'est que de toute façon, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres boulots, mais en BD, même si on te met une deadline... Et eh ben si le jour de la deadline, la BD n'existe pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas te virer, tu sais, on va pas te virer ou t'arracher les planches du cœur, tu vois. Donc de toute façon, tout le monde est désolé si tu dépasses ta deadline, mais on peut pas y faire grand-chose. Donc je trouve que ça sert que à te presser. Mais quand j'en ai pas, si, je finis par la faire, mais bien plus lentement. Par exemple, avant Les Culottés, j'ai fait une BD qui s'appelle California Dreaming. J'ai mis un peu plus de 2 ans à la faire.
C'est pour celle-là que t'es partie à New York, plus ou moins, ou
ça... C'est pendant celle-là, pendant mais c'est celle-là. Pas pour celle-là. Okay, d'accord. C'était pas forcément lié, mais j'ai mis 2 ans et quelques parce que j'ai fait comme d'hab. J'ai passé un an de gestation à me dire putain, il faut que je m'y mette, et à en parler à tout le monde comme si c'était déjà en route. Genre ouais, ben là, je suis sur un gros truc.
Est-ce qu'il faut en parler aux gens justement? Parce que j'ai l'impression que quand je veux créer un projet d'envergure et que j'en parle. Moi, j'ai tendance pareil, enfin, je sais pas si c'est pareil, mais j'ai tendance en tout cas à beaucoup en parler aux gens, à dire alors je vais faire un film là, ouais. Laisse tomber, l'histoire est géniale, etc. Et après, j'ai l'impression que plus j'en parle, plus ça se dilue,
ouais.
Comme si je l'avais déjà fait, tu vois. Et que le moment où je dois vraiment commencer à le faire, je suis là, bon, en fait, j'ai plus envie de le faire.
Ouais, carrément. Non, en fait, pour moi, c'est un double problème, c'est que si tu en parles trop, tu crées une attente de la part des gens autour de toi. Et en fait, surtout, ça fait un truc qui est vraiment humiliant pour toi, c'est que. En janvier, tu as commencé à parler aux gens d'un truc que tu avais envie de commencer à faire. et quand tu les revois en août et qu'ils te disent et toi tu bosses sur quoi, et tu penses que tu leur en as pas encore parlé, et tu dis bah là je suis sur un projet de ton truc qui a donc pas du tout avancé depuis janvier, les gens te font ah mais du coup c'est le même truc que la dernière fois, et moi c'est à chaque fois c'est vraiment une gifle, tu vois, de me dire putain ça fait déjà un an que j'en parle, il faut vraiment que je m'y mette quoi. Donc et aussi je suis assez d'accord avec toi sur le truc de diluer, c'est surtout que de toute façon quand un projet est trop petit et trop jeune et encore un peu mou, si tu l'exposes à trop de regards et trop de retours de gens, on va te le tuer, quoi. Même pas de manière malveillante, mais il est pas prêt à être raconté 40 fois et à passer au retour des gens qui peuvent être juste parfois, tu vois, un petit regard un peu genre, ah ouais, tiens, tu vois. Et ah, c'est très violent, en fait. Donc, je trouve que de toute façon, très en amont comme ça, c'est pas forcément utile, à part pour te motiver d'en parler aux gens. Après, moi, ce que je fais, c'est l'annoncer de manière professionnelle, un peu publique, tu vois. Genre typiquement quand tu fais des interviews pour la promo d'un livre, t'es sûr que la dernière question de toutes les interviews c'est toujours bon et puis bah du coup sur quoi vous travaillez en ce moment, c'est quoi la suite, tu vois. Et à chaque fois c'est le moment où tu dis bon bah vas-y je vais mettre la pression toute seule comme une conne, mais je vais le dire, et du coup à partir du moment où je l'ai dit il existe.
T'es obligé de le faire parce que publiquement tu l'as annoncé.
Parce que tu l'as dit, t'as dit bah très bien, et ben voilà je le dis, donc là j'ai commencé à faire tel truc, et à partir du moment où tu l'as dit c'est showtime, t'as appuyé sur play, il faut le faire quoi. Donc c'est moi, ça marche bien parce que j'ai besoin vraiment de toujours me foutre un coup de pied au cul, soit en me calant des délais débiles de prépublication, genre 8 pages par semaine pendant un an, ce que j'ai fait là. Mais du coup, mon éditeur, il en pouvait plus de joie parce que j'ai quand même fait 2 bouquins en un an, ce qui est jamais arrivé.
Alors pourquoi faut que tu mettes des délais aussi aussi difficiles ?
Aussi débiles ? Eh ben, je sais pas. Mais en fait,
c'est intéressant parce que je suis désolé, je t'interromps, ouais. Parce que j'ai jamais été aussi productif que depuis que je fais un épisode par semaine, alors que je pense qu'en fait j'ai l'impression que tu t'adaptes un peu au rythme que tu te mets, tu vois, ouais. Mais que si j'en faisais moins, je sais pas, j'ai l'impression d'être assez que si j'en faisais moins, j'en ferais moins. Enfin, je sais pas comment t'expliquer,
ouais,
mais
ouais.
Tu vois.
Et ben, tu sais, peut-être, j'ai peut-être un début d'explication pour ça. Je pense que c'est parce que tu t'es vraiment entièrement dans ta tête dévoué à ça, c'est-à-dire que tu te dis c'est vraiment mon année, ou genre si on te dit tu fais quoi en ce moment, tu dis pas beaucoup, pas mal de trucs, non t'as un truc en fait, tu fais que ça. Et évidemment quand tu fais un podcast par semaine ou une histoire par semaine, bah c'est évident que tu fais rien d'autre, enfin je me doute que ça te prend un temps fou.
Et moi j'ai un problème, c'est que j'essaie toujours de faire d'autres trucs à côté, j'arrive, mais je fais quand même principalement ça, ouais, 80% quoi.
Tu sais pas si t'as déjà entendu parler de la métaphore des cailloux, pour les gens qui sont un peu multitâches et qui s'éparpillent comme ça. T'as plein de choses à faire dans la vie, de plein de projets, mais ils font pas tous la même taille, tu vois. T'as des gros cailloux, t'as des gros blocs, t'as du gravier, et puis t'as du sable, tu vois. Et ça sert à rien d'essayer de tout faire en même temps. Tu pourras pas tout faire rentrer dans ton verre. Il faut d'abord que tu places tes gros cailloux. Après, tu lâches ton gravier, puis il va venir se mettre là où il y a de la place. Et à la toute fin, si tu mets du sable, il va combler les interstices. Donc, en fait, ton podcast, c'est ton gros caillou. Et le reste, tu t'en fous, ça trouvera toujours sa place. Ça va être, t'as une heure à attendre quelqu'un dans un café, tu fais ton dernier truc, etc. Donc, en fait, il faut pas non plus prendre tous les projets de manière égale comme ça. Il faut visualiser ce qui est ton
la priorité.
Ta priorité et qui est pas forcément le truc le plus satisfaisant en fait. Tu vois, qui est pas le truc le plus gratifiant, mais le truc où tu sais qu'en fait, ça te demande un vrai investissement. De temps, par exemple, ou de...
Mental aussi.
Ouais, voilà, merci. Je suis désolée, je cherche mes mots. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'ai 200 mots de vocabulaire, donc je fais une petite...
Je me trouve pas excellent
j'ai
non plus sur
heures.
Mes phrases, donc... Oui.
J'ai dormi 4 heures, donc j'ai un vocabulaire d'ado. Il me manque la moitié des mots. Mais bref, tu vois ce que je veux dire, t'as compris.
Je vois ce que tu veux dire. Toi, tu écoutes, c'est quoi... Est-ce qu'il y a des choses que t'as envie de faire à côté, comme moi, quand je te parle de... Enfin, c'est que t'as des petits cailloux, toi, justement.
Mais ouais, et en fait, moi, j'ai plutôt des tonnes de petits cailloux, de gravillons, j'ai tellement de trucs. Et en fait, je fais des listes tout le temps. Donc, c'est une façon de pas de me dire que ça y est, c'est fait. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai sorti de ma tête, tu sais, c'est vraiment la pensive, quoi. À partir du moment où je me dis, ok, c'est bon, maintenant c'est déjà écrit quelque part. Ça veut dire que, au pire, je peux me permettre d'archiver et de faire de la place dans ma tête et de plus être préoccupée par ça, parce que sinon dans ma tête je vais me dire en même temps j'ai un livre à finir et j'ai une machine à lancer, tu vois. C'est qu'en fait il y a pas de hiérarchie dans les trucs que je dois faire, et du coup c'est très vite trop.
Et du coup tu fais des listes
les jours, mais
ah ouais,
du tout, mais bien sûr, de trucs à faire avant midi et ça.
Par exemple, ce matin t'as fait une liste?
Alors, j'ai pas vraiment eu le loisir de faire des listes parce que ce matin, je me suis surtout réveillée en speed et j'ai couru parce que. Mais sinon, ouais, je fais des. Dès que je sens que ça commence à être trop et que ça m'angoisse, je fais une liste et c'est vraiment, c'est très apaisant. C'est que je me dis, au moins, je vais rien oublier. Tu vois, parce que je me dis, sinon, il y a forcément, à la dernière minute, je vais me rappeler que, ah bah merde, c'était le dernier jour pour les impôts, tu vois. Donc, ça me rassure vachement de me dire, il peut plus rien arriver d'horrible parce que c'est noté.
C'était
et
pas
la
le dernier
satisfaction
jour pour les impôts,
là. D'effacer des choses. C'est plus. Oh, pourquoi tu me dis ça?
Non, je sais pas, justement, je sais pas, ça m'a mis un affreux doute.
Attendons la fin de l'interview pour vérifier si tu reviens pour pas être complètement stressé.
Ouais, la satisfaction d'avoir.
À chaque fois que j'enlève un truc de cette liste, ouais. Mais j'ai un picotement de joie, tu vois. C'est qu'en fait, ça, c'est hyper scolaire et hyper important, c'est de me dire, voilà. Et à la fin, il y aura plus rien sur ma liste. Et ça veut dire que je serai bien. Donc, les listes me rassurent, comme plein de gens, je pense. Et ouais, non, en fait, typiquement, tu vois, avant, ça m'arrivait de signer des contrats pour plusieurs livres d'affilée. Alors j'ai compris que ça, par exemple, c'était pas possible pour moi parce que c'est des bouffées d'angoisse en fait. C'est que ça veut dire que il y a aucun moment où ma petite liste elle va être vide. C'est que tu dis cool, dans 5 ans j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, mais ça me rend folle. Donc il faut vraiment que j'essaie de m'engager le moins possible tout le temps. J'ai un peu des problèmes d'engagement comme on peut avoir dans des relations amoureuses, mais moi je l'ai vraiment dans le travail quoi.
Comment ça?
C'est qu'il faut que ça reste il faut que je sois vraiment open relationship dans mon travail quoi. Il faut que je puisse me dire, tu sais, je peux rien te promettre. À tout moment je peux disparaître parce que sinon,
un peu comme l'absence de deadline fixe.
Ouais c'est ça. Et c'est de dire oui je te dis ça, mais tu vois par exemple j'ai appris il y a pas très longtemps que un auteur de BD que j'adore, tu vois, qui en fait ne fait faire les contrats et ne donne ses planches que quand le livre est fini. Je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse.
Mais est-ce que tu ferais le livre s'il n'y a pas le contrat et la deadline et tout?
Mais il faut essayer, peut-être, tu vois. Je me dis, pour un projet qui me passionne vraiment, peut-être que je le ferais. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est pas pour des raisons de deadline, mais moi, j'ai vraiment besoin d'un éditeur pour travailler. C'est vraiment un truc, on est en binôme, quoi. Pour moi, on fait 50-50. Et si jamais je suis toute seule, c'est pas tant que j'ai personne pour me fouetter et me dire avance, mais c'est que j'ai personne pour me gratter derrière l'oreille toutes les 10 pages et me dire c'est super. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça.
Mais pourtant, quand t'avais ton blog, tu t'avais pas d'éditeur derrière qui te... Parce que tu publiais tous les jours, je crois.
Ouais, mais d'ailleurs, c'est... Y a pas d'histoire.
Ok.
Tu vois, c'est que... te demander toutes les 2 pages si... Attends, c'est pas de la merde ce que je suis en train d'écrire. Ça, c'est vraiment un truc pour lequel moi, j'ai besoin d'un éditeur qui régulièrement, je pense parfois même sans lire ce que je lui ai envoyé, me fait « Non, non, c'est super. » C'est vraiment ça. C'est, j'ai juste besoin de ça tout le temps. Et si j'ai pas cette personne avec moi, j'arrive pas à avancer. Donc, je pourrais... C'est pour ça aussi que le côté « Je fais mon livre et à la toute fin, je le propose au plus offrant », je pense que ça fonctionnerait pas trop pour moi. Mais...
Et quand t'as fini un projet, par exemple, t'as fini Culotté, tu t'enchaînes direct sur autre chose ou tu breaks longtemps, tu fais une pause longtemps, etc.
Alors déjà, quand j'ai fini un projet, je m'offre un cadeau. Toujours.
Ah ouais?
Toujours.
Tu t'es offert quoi, par exemple?
Bon, certainement des chaussures. Mais... Et je me souviens lesquelles sont pour quel livre. Tu vois, c'est hyper important. J'ai toujours fait ça, c'est parce que...
Même quand t'étais ado, tu faisais ça quand tu réussissais un truc ou...
Non. Non, non, c'est vraiment depuis que je fais des livres. Je me fais un cadeau par livre. Et je recommande. C'est vraiment très bien parce que personne ne va le faire. Personne ne va trouver un cadeau à la fin de ton livre. Donc, voilà. Et il y a aussi un truc, c'est que pour les BD, quand ton livre est fini, la deuxième partie du travail commence, c'est que tu vas commencer la promo, en fait. Et du coup, tu vas vivre encore, tu vas faire encore x2 dans le temps que tu vas passer avec ce livre. C'est qu'en plus, après, tu vas passer tes journées à en parler. Donc, c'est.
T'aimes bien cette partie, toi?
Si elle est pas répétitive, ouais, c'est assez cool. Déjà, c'est pour l'ego, c'est vachement bien. Tu vois, c'est quand même super agréable de parler de ton travail. Surtout quand t'es face à des gens qui l'ont vraiment lu et que ça intéresse et qui te posent des questions intéressantes, c'est toujours cool. Ça, souvent, ça t'amène une réflexion sur ton boulot à laquelle t'avais pas du tout pensé, tu vois. Donc c'est marrant. Souvent, tu voyages aussi quand ça se passe bien, donc c'est assez chouette. Mais c'est vrai qu'à la fin, si ça dure plus longtemps que le temps que t'as mis à faire le livre. C'est un peu fatigant, quand même. Et puis, si jamais t'es déjà dans la suite, si t'es déjà en train de bouillonner de l'envie de ton truc d'après, c'est hyper énervant. T'as envie de dire aux gens, mais je m'en fous, moi, j'ai plus envie de parler de ce truc-là. Je l'ai fini il y a un an, en fait. On peut parler de mon nouveau truc. Tu vois. Et puis, mais bon, ça, c'est quand même assez satisfaisant. Et puis, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, avec le fait de choisir que les projets qui te plaisent, ça reste que des problèmes de riches. Même quand t'es fatigué de ta promo, tu t'entends le dire et tu fais « Non, pardon, j'ai rien dit. Je ne suis pas fatiguée de ma promo, en fait. Je suis en train de faire la promo de mes livres, donc c'est génial et je me tais. »
Et ça t'arrive d'avoir trop d'idées pour la suite et de douter de laquelle il faut lancer ou de ne pas savoir?
Ah ouais, ça, c'est vraiment un problème En fait, surtout, non, c'est, je pense que peut-être tu connais ça aussi. C'est surtout que le dernier qui a parlé a raison et la dernière idée que t'as eue, elle est toujours mieux que les autres, quoi.
Ah ouais, j'ai oublié de te demander ça tout à l'heure. Tu me disais, parfois tu travailles, t'es dans le ventre mou d'un projet. Mmh. Et là, t'as l'idée de la suite, du prochain projet et tu veux absolument le faire. Mais, ça t'arrive d'arrêter un projet parce que justement, je pense que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait de, l'idée que je viens d'avoir est bien meilleure que l'idée que je suis en train de faire.
Non, pas une fois que c'est commencé. Pour moi, une fois que c'est commencé, c'est parti, c'est l'autoroute.
Il faut le finir.
C'est même pas qu'il faut, c'est que... Je crois que je me suis même jamais posé la question à ce point. C'est que c'est commencé, ça doit se finir, quoi. Quitte à ce que ce soit chiant, mais... Et puis, okay. Du coup, l'autre projet, presque dans cette contrainte, cette frustration, va devenir de plus en plus... va gonfler et ça va être encore mieux. En revanche, ce qui est déjà arrivé, c'est que le temps que j'arrive à la fin du truc qu'il faut que je finisse, celui que j'avais... mon idée géniale du milieu de projet, en fait, elle est déjà morte. C'est pas plus mal, en fait, obligé d'attendre 6 mois avant de commencer un truc. C'est que tu te demandes si c'est toujours sexy au bout de 6 mois, c'est plutôt bon signe.
Tu penses que les bonnes idées, justement, elles restent
Ouais, carrément. Je pense vraiment.
Et du coup, est-ce que tu penses que quand t'as vraiment une idée où tu te dis, ah, c'est incroyable, il faut presque attendre 1 ou 2 mois ou la laisser incuber? C'est Kian qui disait qu'il incubait beaucoup les idées sur ce podcast.
Ben, en fait, tu sais, c'est un peu comme le syndrome j'écris un truc génial au milieu de la nuit, puis le matin, je me relis, ouais, c'est de la merde, tu vois. Quand un truc, moi c'est pas tant est-ce que c'est une bonne idée, c'est toujours dans ce souci de est-ce que je vais réussir à tenir 2 ans à faire que ça. Il faut vraiment 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 que ce soit suffisamment sexy pour que, si déjà au bout de 6 mois je doute un peu et je me dis ouais après ça va peut-être être pas si génial que ça, c'est quand même assez mauvais signe, c'est que je vais vite m'enlacer, quoi. Donc il faut, c'est pas mal effectivement de devoir laisser incuber, parce que c'est très bon signe si t'as encore envie. 6 mois après, c'était un conseil que m'avait donné quelqu'un avec qui je travaillais il y a des années, qui m'avait dit le plus important avant de commencer à dessiner une histoire avec un personnage, c'est que ce personnage, tu l'aimes vraiment très très fort, parce que tu vas passer tellement de temps avec lui, que si en fait t'en as marre de le dessiner au bout de 6 mois.
Mais pour ça, du coup, faut avoir déjà un petit peu passé du temps avec lui, non?
Mais ouais, mais justement, passer 6 mois à l'avoir dans la tête, ouais, c'est qu'il commence à exister. C'est toute la dimension un peu tarée des auteurs, c'est que tu fais rouler un truc dans ta tête pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il soit réel, en fait. Tu sais, plus il roule, plus il prend de l'épaisseur et de la consistance, et à la fin c'est bon, il existe, et quand il existe, après c'est tellement facile d'écrire l'histoire d'un personnage qui existe clairement dans ta tête, parce que toutes ses réactions sont toutes prêtes, tu vois, t'as qu'à le laisser vivre. Mais pour ça, il faut, je pense que tu aies passé beaucoup de temps à d'abord le faire, beaucoup de temps à gribouiller pendant que t'es au téléphone sans réfléchir, pour que, à force, un jour, enfin, tu commences à trouver quelle tête il a, ce genre de choses. Mais ça, tu peux pas le... C'est difficile de faire ça dans le rush, quoi.
Et du coup, quand t'as trop d'idées de projet, que tu sais pas exactement lequel faire pour la suite, et que la dernière idée est toujours la meilleure, tu fais comment, alors?
Écoute, c'est tellement mon actu d'aujourd'hui que c'est assez compliqué de répondre à ça. Il y a plusieurs paramètres. Du coup, il y a les gens qui te mettent le plus la pression. Et en général, les éditeurs le savent. Ils savent que quand tu as plusieurs trucs en cours, il faut juste être celui qui harcèle le plus, quoi, pour que ça démarre. Il y a clairement les gens avec qui tu bosses qui te donnent plus ou moins envie aussi, quoi. Et puis en fait, bah, c'est assez naturel. C'est que tu te dis... Oh, j'ai hâte d'avoir 2 heures pour pouvoir me mettre à bosser sur tel truc. Bon, c'est quand même qu'il y a un truc, quoi. Et dans ces moments-là, c'est vachement important de pas te faire parasiter par des mauvaises raisons, tu vois. C'est ça qui est... Te dire, c'est celui qui ira le plus vite à faire, par exemple. Parce que déjà, c'est faux. T'en sais rien du tout avant d'avoir commencé un bouquin.
Tu sais pas combien de temps rapportera le plus, ce genre de choses.
Ouais, ou celui qui rapportera le plus. Alors ça, c'est vraiment le truc qui est le plus difficile à mettre de côté, évidemment, mais... Écoute, là, pour en ce moment être en train de vivre un peu ça quand même, il y en a un que j'ai plus hâte de dessiner. Mais c'est vraiment presque physique, c'est qu'il y en a un, j'ai vraiment envie d'être en train de le dessiner, quoi. Voilà. C'est peut-être la différence entre les gens qui écrivent et les gens qui dessinent, c'est que dans le dessin, il y a le geste. Et que du coup, il y a cette partie-là aussi du travail qui est hyper importante, c'est t'as hâte de ça, quoi, d'être...
Ça, c'est la bonne raison, tu veux dire? C'est est-ce que t'as envie de le faire, en
ouais.
fait?
Est-ce que t'as vraiment envie de mettre les mains dedans?
Les mauvaises raisons, en fait, ce sont les choses qui sont autour, quoi, dans le résultat, ce que les gens vont en penser.
Ouais, et puis...
Parce que je suis vraiment dans cette réflexion en ce moment, parce que... Je me remets pas mal à des trucs que je faisais quand j'étais ado, notamment de la musique, etc. Mmh. Tu vois. Mais il y a plein de pressions qui arrivent direct du genre, ouais, non, mais c'est trop tard pour faire de la musique ou des choses comme ça. Tu vois. En fait, j'aime vraiment le faire. Ouais. Et je me dis, si j'aime vraiment le faire, c'est quand même plutôt bon signe, tu vois. J'ai vraiment, je suis impatient de rentrer ou je suis impatient de finir des choses que je suis en train de faire pour pouvoir rentrer et faire de la, ben voilà, de la musique, tu vois.
Ouais, puis aussi, ben, tu vois, c'est con, mais assez naturellement, tu vois pour lequel tu trouves du temps alors que t'es débordé, tu vois. Et en général, c'est assez bon signe quand même, c'est que t'as 1000 projets et puis il y en a un qui vient d'atterrir sur ta pile et puis bizarrement tout s'arrête pour faire celui-là, quoi. Parce qu'en fait, t'as envie de le faire. Et enfin, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent, mais du coup, genre dans le boulot, qui me disent, mais du coup, c'est, t'aurais le temps de faire ça, c'est quoi ton calendrier cette année? Et tu vois, en fait, quand on est 100% honnête, on dit, bah, mon calendrier, c'est qu'en fait, si demain j'ai un projet qui me fait hyper envie, j'arrête tout et je fais ça, quoi.
Oui, t'as toujours en fait, du temps pour les choses que t'as vraiment
en fait,
envie de
faire. Bizarrement, tu les trouves, quoi.
C'est comme si t'as ton meilleur pote qui passe dans le coin, tu vas toujours trouver un moyen
Et ouais, c'est ça. On te dit, bah, attends, tu descends juste 5 minutes, on va boire un coup. Tu fais, ouais, en fait, tout peut attendre une heure, quoi.
Ah, ouais, ça.
Donc, c'est pas très. J'espère vraiment que j'ai aucune personne avec qui je travaille qui est en train d'écouter ça.
De toute façon, c'est pas encore sorti. Hein.
Ouais, ouais. Et si ça se trouve, d'ici là, j'aurais réglé mes problèmes de priorité de projet. Mais...
Et dans ton livre Cadavrixki, il y a le personnage qui s'appelle Thomas Rocher, mm-hmm. qui est un auteur justement qui n'arrive plus à écrire. Est-ce que quand tu as écrit ce bouquin, tu avais un peu peur d'être comme lui à un moment? Ou est-ce que parfois tu as peur de plus avoir d'idées justement?
Pas tant sur cet aspect-là, pas sur l'aspect de la page blanche, parce que, encore une fois, en BD, la page blanche, elle n'existe pas. Parce que le temps de gestation d'une idée est tellement. 1000 fois plus rapide que le temps de réalisation, que t'as que le problème inverse. Pendant que t'es en train de faire une BD, t'as 150 nouvelles idées et tu peux pas les commencer. Donc ça existe pas, la page blanche en BD. Au contraire, t'as d'avance déjà tes idées pour les 15 prochaines années, tu vois, et juste pas l'occasion de les faire. Non, en revanche, il y a un autre aspect de Thomas qui était l'aspect qui me faisait peur quand j'ai commencé à faire des bouquins, parce que j'ai rencontré des auteurs qui étaient comme ça. C'était des gens qui ne vivaient vraiment que dans l'amour de la critique. C'est-à-dire, dans Thomas Rocher, c'est un mec qui garde toutes ses coupures de presse et qui les regarde comme sa salle des trophées, mais comme un enfant, tu vois. Et c'est sa seule satisfaction dans la vie. Et à partir du moment où il perd l'amour de son public, il a plus rien. Et pour lui, ça a même plus de sens d'écrire, en fait. C'est qu'il est tellement accro à ça que, et c'est parce que j'avais commencé à rencontrer des auteurs qui étaient un peu des auteurs à succès et qui avaient, par exemple, leur femme qui leur interdisait de lire les critiques de leurs livres parce que ça pouvait potentiellement les plonger en catatonie pendant des semaines, tu vois. Une mauvaise critique, c'était la mort. Et même si les livres continuaient à se vendre et qu'ils avaient des lecteurs qui aimaient ce qu'ils faisaient, le fait qu'ils aient eu de la mauvaise presse, ça les tuait, quoi. Et je trouvais ça assez terrifiant.
Et comment tu fais, toi, pour tu gères comment ça, les critiques?
Alors j'ai la chance de faire une forme d'expression, enfin un média qui est pas suffisamment grand public pour côté de la mauvaise critique. C'est-à-dire, un mauvais film, on peut se permettre de passer 2 pages dans un journal à dire que c'est de la merde. Une BD, si les gens aiment pas, ils en parlent pas, en fait. C'est quand même un truc assez undercover, la BD. Les gens, globalement, s'en foutent un peu. Donc, t'es pas exposé à la orageux en BD. C'est pas comme la musique ou la télé ou le ciné. T'as que des bonnes surprises. C'est-à-dire, si on parle de ton livre, c'est génial, en fait. Donc voilà, après...
Tu vois, tu vas pas creuser les reviews Amazon pour voir qui a dit du mal de ton
alors,
livre
ou... je lis jamais ça. Jamais, 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 jamais. Vraiment. Depuis que je l'ai fait au tout début, et parfois j'ai lu des trucs qui étaient... En fait, qui étaient même pas des critiques du livre, tu vois. Qui étaient vraiment des trucs... Mais de la même manière que je préfère vraiment... Je donne toujours plus de crédit à une critique qu'on me fait en face qu'à une critique que je lis. Tu vois, c'est que...
Les gens osent dire la vérité en face?
Ah ouais, ouais, carrément. Ou même, tu vois, j'en sais rien, un journaliste qui a pas aimé mon livre, c'est ok, mais je suis contente qu'on en parle, tu vois, qu'on... J'ai pas de... Je suis moins... Je trouve ça a moins d'impact sur moi, quelque chose qu'on m'envoie comme ça par écrit, que quelque chose qu'on me dit en face. Et puis non, globalement, ouais, encore une fois, je pense que c'est parce que c'est de la BD, mais les gens passent rarement beaucoup de temps et d'énergie à critiquer une BD, quoi. Tu vois, ils s'en foutent plutôt. Et à la limite, c'est bien ça le pire qu'on puisse faire à ton livre, c'est de ne pas en parler. Donc non. Après, ça m'est arrivé, ouais, de prendre vraiment des espèces de fireball de rage de gens, mais qui sont pas sur mon boulot, en fait. C'est vraiment sur des trucs soit humains, soit tu vois des trucs un peu sexistes, des trucs comme ça. Enfin, les mêmes genres de choses que gèrent tous les gens qui sont sur Internet, je pense. Tu vois.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tu dois recevoir pas mal de, ou tu dois avoir pas mal de personnes en tout cas qui aimeraient bien faire comme toi, ou tu sais, s'inspirer de ce que tu as fait pour devenir dessinatrice de BD ou dessinateur de BD, ce genre de choses. Et est-ce que tu crois que si tu recommençais là maintenant en 2018, faire un blog par exemple où tu partages un truc quotidiennement, tu crois que c'est toujours une bonne. Parce que c'est quelque chose qui toi t'a beaucoup aidé, non?
Alors je pense que je suis plus du tout dans le game d'internet et que je saurais pas du tout quoi conseiller à des gens qui veulent aujourd'hui montrer leur boulot sur internet. Si tu veux, je me suis quand même mis dans Instagram il y a 6 mois pour te donner une idée d'après mon niveau de à quel point je suis update là-dedans. Donc il y a 10 ans c'était super d'avoir un blog, c'était parfait. Aujourd'hui je saurais pas quoi te dire. En revanche, de toute façon montrer son boulot c'est toujours bien quoi, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut trouver la plateforme, c'est ce mot se dit encore, qui soit celle qui ait le meilleur ratio visibilité et en même temps innocence. C'est-à-dire à partir du moment où les blogs BD se sont un peu spécialisés dans le montrer son travail pour trouver un éditeur et faire un livre derrière, moi j'ai trouvé que ça avait un petit peu perdu en qualité, même si ça sonne un peu vieille conne de dire ça, mais et d'ailleurs ça s'est senti parce qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés en fait. C'est que c'est pas un fuel suffisant pour tous les jours produire en fait, te dire ouais mais c'est cool parce que ça me fait une vitrine. Je pense que ça c'est un truc qui te tient 6 mois, mais au bout de 6 mois ça te rend dingue parce qu'en fait c'est pas suffisant comme raison de le faire. Mais je sais pas aujourd'hui quelle est la façon visible et innocente de montrer son travail. Mais
Instagram, ça m'a pas l'air super innocent comme plateforme.
Je sais pas. Et peut-être en fait que tu vois peut-être qu'en fait je suis vraiment super décalée et que l'innocence a plus lieu d'être dans ce genre de questions, tu vois. Qu'il faut être au contraire plus calculateur, parce que c'est pas du tout comme ça que je le vois. C'est pas un truc péjoratif, mais peut-être qu'il faut se poser des questions plus tôt, tu vois, plus en amont, et se dire, bah, attends, en fait, qu'est-ce que t'aimerais bien faire? Par exemple, question que moi, je ne me suis pas posée quand j'ai commencé mon blog. Se dire, tu fais ça pourquoi exactement? Est-ce que tu aimerais faire un livre? Est-ce que dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup dès maintenant de réfléchir peut-être à, tu vois, un peu te relire ou essayer d'un peu améliorer ton dessin, tu vois?
Ouais, mais est-ce que ça, du coup, ce n'est pas un peu mettre la fin avant le processus, quoi, et du coup, risquer de faire des choses pour les mauvaises raisons, alors que si tu fais juste tes dessins, tu fais ce que tu aimes, et au bout d'un moment, ça porte ses fruits?
Ouais, je ne sais pas si c'est mal d'angler ton truc, par exemple. Ou tu vois, typiquement, il n'y avait même pas un thème. C'était genre, tous les jours, je dessinais un truc. Mais moi, les blogs BD, bon, j'en lis plus, puis je ne sais même pas s'il en existe vraiment beaucoup encore, à part celui de Boulet, mais tu vois, le fait de te dire... En fait, les trucs que moi, j'ai bien aimé lire, c'est quand même quand il y avait un petit peu un concept, ou au moins, il y avait un rendez-vous, un truc, tu vois...
Ouais, mais ça a fini par donner un thème, même, quand même, ton blog. Et d'ailleurs, ça a fait le bouquin ensuite, et...
Ouais, non, c'était vraiment faire du...
Je crois pas que vu que tu parles un peu de toi, vu que c'est assez perso quand même, ouais. ça donnait du coup une sorte de cohérence artistique, une sorte de thème, tu vois.
Je trouve que c'est un bien grand mot.
Ok.
une cohérence artistique. C'est du dessin par défaut. C'est que plutôt que de chercher de quoi je vais parler, un thème, une façon d'aborder les choses, tu dis, j'ai pas d'idée, mais il faut que je me force à faire un dessin par jour. Bah vas-y, je raconte un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est le plus facile, c'est pas un thème, c'est un thème vraiment par défaut. C'est comme si tu disais à chaque jour, je prends une photo de ce que je vois par ma fenêtre dans ma cuisine, et encore même pas, parce que ça c'est une démarche, tu vois, juste de dire, chaque jour je prends une photo, voilà, et puis voilà, parfois c'est mes pieds, parfois c'est mon chat, et il y a même pas genre une cohérence dans la forme, quoi. C'est, ben j'ai un blog où tous les jours je fais une photo. Et ben peut-être que ça aurait été vachement plus intéressant comme blog si t'avais dit, chaque jour je prends une photo mais à la même heure, tu vois. C'est pas forcément te dire, chaque jour, je vais faire une photo, et comme ça, derrière, hop, une galerie, boum, une expo et tout. C'est te dire, tant qu'à faire, rend le projet un peu plus intéressant en lui donnant corps, en rajoutant quelque chose. C'est peut-être quelque chose que j'aurais fait rétrospectivement si je m'étais dit, quand même, relis-toi et essaye de chier un petit peu plus tes dessins parce que, en fait, à la fin, tu vas faire un livre avec. Et pour le coup, les pages, elles resteront toujours comme ça toute la vie et tu verras toujours les dessins que tu as torchés en deux minutes quand tu verras ce livre. Il n'y a pas de problème, tu le verras même dans 10 ans.
Ouais, ça, c'est l'idée de bien faire quoi qu'il arrive parce que toi, tu savais déjà où tu allais, en fait.
Mais non.
Ouais. Donc, ouais, mais peut-être que du coup, si tu t'étais dit. Et un angle, et un, tu vois, fais un truc un peu plus poussé, peut-être que tu l'aurais pas fait, ou peut-être qu'il y aurait des jours où tu aurais pas dessiné, justement.
Ouais,
tu
ouais.
Tu vois, c'est peut-être parce que parfois, t'as, par exemple, si quelqu'un écoute ça et se dit, ah là là, bah, du coup, je peux pas faire, tu vois, je peux pas dessiner ou faire un projet si j'ai pas un angle. Parfois, tu sais, c'est difficile de trouver un concept,
oui, oui.
Quoi.
Non, mais
par exemple, moi, là, je prends toujours cet exemple, hein, parce que je fais ce podcast, mais au bout de plusieurs mois, j'ai un peu l'impression d'avoir trouvé de quoi ça parle, tu vois. Ouais. Mais au début, j'étais juste là, je disais, les gens me disaient, mais alors, c'est quoi le fil conducteur entre les gens que t'interviews, je suis là, aucune idée, ouais. Quoi. Vraiment, qui veut bien passer sur mon podcast et interviewer, tu vois.
Non, mais en fait, t'as sûrement raison. Peut-être que si je m'étais dit, ou même si j'avais trouvé un vrai titre, tu vois, enfin, peut-être qu'en fait, ça aurait pas tellement été moins bien ou moins lu, mais peut-être que moi, j'aurais pas tenu, en fait. C'est que je me serais dit, putain, c'est un boulot, en fait.
Ouais, et puis tu serais pas ennuyé, du coup, parce que tu me dis que tu t'ennuies assez vite. Le côté, du coup, bah, t'as plus le droit de ne faire que ça, tu vois. Oh. Peut-être que le lendemain, t'avais envie de faire un truc qui n'avait rien à voir.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que, à ce moment-là, et de l'âge que j'avais, et où j'en étais dans le travail, etc., c'était absolument parfait pour moi. C'était vraiment l'alignement des planètes parfait, ce format-là. C'était très, très bien, parce que ça m'a obligé à dessiner pour pas le travail.
T'étais dans la pub à ce moment-là?
Je venais de commencer à travailler.
Tu viens de commencer. T'avais quoi, 25 ans?
25 ans, ouais. Et donc, je commençais à comprendre aussi ce qu'allait être vraiment mon travail, tu vois. Et qu'en fait, bah, tu sortais d'école d'art, donc, c'est quand même une petite désillusion de commencer à travailler quand tu sors d'une école d'art. Et
pourquoi? Parce que tu penses que tu vas être artiste direct.
Tu penses que tu vas être artiste. Okay. Tout simplement. Et non, surtout, tu penses que tu vas créer des choses qui te font envie et plaisir et que ton avis va avoir une importance. Et il y a un million de satisfactions dans le fait de travailler dans le dessin. Mais vraiment, le fait d'avoir un avis ça n'existe pas. Hein. Donc, voilà. C'est quand même assez déceptif. Mais c'est très satisfaisant sur plein d'autres points, mais vraiment pas en termes de créativité. Et du coup, c'était hyper important d'avoir ce micro-truc à moi à côté. Donc, c'était vraiment salvateur à ce moment-là. Et puis, ça m'a aussi, mine de rien, appris que j'aimais bien dessiner, enfin, j'aimais bien raconter des histoires parce que je lisais même pas de BD, tu vois. Donc, moi, c'était aussi une façon de me dire, en fait, c'est vraiment marrant de faire ça. Je suis vraiment contente quand je le fais.
Ouais, de te rassurer sur le fait que t'aimais ça ou de.
Mais de le découvrir, de franchement, découvrir. Tu vois, de me dire. C'est des trucs que j'avais toujours fait, c'était avoir faire des petites. Des dessins, enfin, en gros, avoir un journal, mais en dessin, j'ai toujours fait depuis que je suis petite. Mais me dire, en fait, ça vaut le coup de sortir de son petit espace et de le montrer. Et vraiment, j'ai vraiment appris avec ce blog beaucoup, c'était super. C'était pas juste un espace d'expression, c'était vraiment un labo. Personnel hyper bien et c'est pour ça que je trouve faut pas du tout te dire faut pas avoir un regard condescendant sur ce que tu faisais il y a 10 ans, enfin tu vois, il faut pas te dire quand je revois ce que je faisais à l'époque je me dis donc quand même il y avait du boulot, ouais je me dis bah bien sûr maintenant quand je le regarde je me dis que c'est dessiné avec le cul et que quand même ça allait pas chercher loin et tout, mais c'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là et j'ai tellement appris en le faisant que voilà.
Et le fait que, est-ce que quand tu l'as fait, tu te disais, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont le lire, j'espère qu'il va y avoir des lecteurs, ou est-ce que tu t'en foutais complètement?
Alors, très honnêtement, au début, il n'y avait pas de lecteurs, et c'était pas le but, mais par exemple, je voulais pas dire aux gens que je connaissais que j'avais un blog.
Tu avais vraiment essayé de créer un genre d'espace d'expression.
C'était très bizarre parce que c'était du journal intime en public, donc j'aimais bien l'idée que des inconnus
inconnus
le lisent éventuellement mais ne m'en parlent jamais, tu vois, il y avait un côté un peu tu vois, aller lâcher mon truc dans la rue et après m'en aller en courant, puis voilà. Et j'aimais bien l'idée que ça vivait sa vie et que peut-être des gens allaient le voir, mais l'idée que des gens que je connaisse puissent le voir, j'étais mortifiée en fait. Je pense qu'il y avait déjà une petite dimension post Skyblog honte du blog. Tu vois, la meuf a un blog. Et puis, il y avait aussi un truc de, ça sera pas pareil si je dessine en sachant que des gens vont me lire, en fait. J'ai besoin de croire que personne va me lire, sinon c'est super paralysant. Et puis, en plus de ça, je parlais un peu des gens avec qui je travaillais. Donc, c'était vraiment le pire qui puisse arriver que ça se sache, quoi. Mais genre, par exemple, je me souviens que même mon mec, je lui disais pas que je faisais un blog, en fait, tu vois. Alors que tous les jours, j'étais trop contente d'aller regarder si j'avais des commentaires. Enfin, genre, ça commence à faire partie de ma vie, mais je préférais mourir plutôt qu'il voit que j'ai un blog.
Tu crois que c'est une bonne idée, justement, ça, de commencer à développer ses projets et de pas en parler au cercle proche?
Ben, j'aimais bien. Déjà, j'avais un peu l'impression, tu vois, c'était mon petit côté un peu Bruce Wayne, quoi. Personne ne savait que j'avais ce truc à côté. Et je trouvais ça assez cool. Et puis, je pense que leur regard aurait pu être destructeur, même s'il était bienveillant. Et même si je me doute que absolument personne dans mon entourage m'aurait dit, bah, dis donc, tu t'es pas foulé, hein. Mais en fait, le fait même, par exemple, quand des gens ont commencé à me dire, quand, je sais pas, je rencontrais des gens qui savaient que j'avais ce blog, ou quand il commençait à un peu marcher, et que j'avais n'importe quelle interaction de boulot ou sociale avec des gens que je connaissais à peine, et qui me disaient, bah, dis donc, alors, genre, un truc qui venait de se passer avec eux, qui disaient, bah, dis donc, ça, j'espère que ça va pas se retrouver sur le blog. Putain, j'avais envie de me foutre en boule par terre avec un frisson de gêne, quoi. Je disais, non, mais on n'est pas censé en parler dans la vraie vie du fait qu'à côté je fasse ça. Enfin, j'avais vraiment ce truc un peu de, ouais, de Bruce Wayne, quoi. J'ai pas mon costume, quoi. Donc, on mélange pas tout.
Et du coup, maintenant, c'est hyper intéressant ce que tu dis maintenant. Comment tu fais pour ne pas penser à ce que les gens vont en penser quand tu crées?
C'est marrant, j'ai fait un podcast avec Clémence Baudoc.
Ouais, que j'ai écouté. Ouais.
Et bah du coup, alors, attention, je vais répéter exactement la même chose. Je peux créer des choses que quand je suis persuadée que personne ne le verra.
Ouais, mais ça tu disais dans l'émission. Ouais. Mais comment tu fais pour être persuadée que personne ne le verra?
Je suis très forte pour me raconter n'importe quoi.
Ah, ok.
Je me dis, non, mais attends, c'est pour toi. C'est bon, personne ne le verra. Et il n'y a que comme ça. Sinon, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, j'y arrive pas. Sinon, tout est une pression.
Parce que je trouve que dans les projets naissants, la simple pensée, le simple fait de se dire, il y a des gens qui vont le voir et d'imaginer déjà leurs avis, parce que tu connais les gens, donc ouais, tu sais plus ou moins ce qu'ils vont dire. Et ben, j'ai l'impression que moi, ça altère ce que je crée, parce que déjà, je suis en train de me dire, ouais, non, mais si je fais ça, il va penser ça. Donc, je pense qu'inconsciemment, déjà, je change le projet, tu vois. Ouais. J'aimerais bien arriver à pas le changer du tout, tu sais.
Ouais, mais je sais pas trop comment conseiller, je sais pas comment te dire de réussir à faire ce truc, d'être dans une espèce de flux tendu jusqu'à ce que ce soit fini.
Donc toi, tu arrives à te convaincre, quoi, en fait.
Ouais. Et puis aussi, la joie de le faire me suffit pendant un bon moment, sans être impatiente de voir le résultat. Et du coup, je suis pas dans le résultat encore. Je suis dans le... Vraiment, je fais de la pâte à modeler, quoi. Tu vois, on s'amuse, c'est super, on patouille, on en met partout. Et puis, je me dis pas... Est-ce que t'es sûr que ce que t'es en train de faire avec ta pâte à modeler est valable, tu vois? Pour l'instant, on s'amuse bien. Mais par exemple... Je fais que repousser le moment où ça va arriver, tu vois, quand j'ai enfin terminé mon truc et que j'ai vraiment 6 ans et que j'ai fini mon truc et que je suis trop fierotte et que c'est le moment où je demande à la première personne à qui je fais lire mon truc, je lui envoie et genre limite je suis à côté pour regarder toutes les réactions de son visage pendant qu'il lit pour être sûr qu'il rigole au moment, etc. Si en face j'ai un... Non, c'est pas mal. Je m'effondre, tu vois. C'est...
Ah ouais, c'est horrible.
Pardon? Mais non, mais c'est sympa. Tu fais, waouh, putain, c'est un an de ma vie, c'est pas mal. Enfin, tu vois, en fait, il y a une attente tellement énorme qu'en fait, ça finit par arriver ce moment-là. Mais c'est fait, tu vois. Tu peux plus te dire, attends, si tu trouves que c'est pas génial, du coup, je recommence tout à zéro. Cet avis-là, je l'aurais eu page 5. Ouais. Mais mon livre, il n'existait jamais, en fait.
Donc, tu montres quand c'est fini, en fait.
Il y a très peu de gens à qui je montre en cours de route. Et c'est vraiment, c'est les gens de, c'est même plus les gens de confiance.
C'est pour avoir une. Plus pour avoir des encouragements, des choses comme ça.
Ouais, et un avis vraiment aussi. Il y a des gens dont j'ai besoin de l'avis.
En fait, il y a des gens dont tu sais que l'avis va pas te faire de mal, c'est ça?
Ouais, alors coup de bol, c'est les gens avec qui je bosse, donc c'est pas mal. Mais et aussi, c'est des gens avec qui j'ai réussi à plus avoir d'ego et à savoir que même si c'est très difficile d'entendre ce qu'ils ont à dire, quand même, statistiquement, ils ont toujours raison. Donc, mais il faut que ce soit des gens, et ça, je pense que c'est hyper important aussi dans le choix des gens à qui tu montres les choses. Et il faut que ce soit des gens qui soient... Alors, comment expliquer ça? Tu vois, l'image que j'ai toujours en tête, tu vois le docteur Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu sais, c'est le mec qui a créé Sally, le scientifique.
Okay.
Il arrive pas à trouver de gens avec qui ça fit, et puis il finit par fabriquer quelqu'un, il ouvre sa boîte crânienne, il prend son cerveau, il le coupe en deux, il met la moitié de son cerveau dans la tête de quelqu'un, et du coup, ça devient sa soulmate, quoi. Et ben, je pense que quelqu'un à qui t'as donné la moitié de ton cerveau au début d'un projet, parce que tu lui as expliqué, mais c'est même pas quand ton projet a démarré, c'est avant ça. C'est la personne avec qui t'as eu des milliers de conversations sur des trucs que t'avais vu, qui ont fait qu'en fait, il a tout l'historique de d'où ton projet vient.
De pourquoi tu fais les choses.
Et surtout, en fait, cette personne-là sait en fait où toi tu veux aller, même mieux que toi. C'est qu'il sait à peu près ce que t'as envie de faire. Et cette personne-là, tu lui as donné la moitié de ton cerveau au début. Et du coup, c'est à lui qu'il faut que tu montres. Parce que du coup, il va te dire, ouais, mais du coup, je sais à peu près ce que tu veux raconter et je peux te dire que là, de l'extérieur, on le comprend pas, ça, tu vois. Et en fait, cette personne-là, elle est hyper précieuse. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est dans la boucle, même si j'ai horreur de cette expression. Pas juste depuis, c'est pas quelqu'un qui débarque du nulle part un jour et tu dis, alors, bon, je t'explique rapidement, donc j'ai un projet de podcast, ce sera gnagnagna. Mais non, c'est quelqu'un avec qui t'as bu des coups jusqu'à 5 heures du mat 57 fois et qui sait d'où tu viens, de la manière, en anglais de le dire, quoi. C'est qu'en fait, il voit bien ce truc, tu vois. Et cette personne-là, quand tu l'as, c'est toujours à cette personne-là qu'il faudra tout montrer parce que, voilà, il a la moitié de ton cerveau.
Et je passe un peu du coq à l'âne, comme on dit. Mais quand tu bossais dans la pub et que tu dessinais à côté, que tu avais ton blog, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire un travail justement en lien avec ta vocation artistique? Ouais. Est-ce que c'est pas un côté où ça peut te... On en avait déjà parlé, je crois que c'était avec Marina Rollman,
ouais.
qui avait... Tu vois qui c'est?
Alors en fait, je n'ai pas vu son spectacle, mais trois personnes m'ont dit que c'était tellement drôle et qu'il fallait absolument que je vois ce qu'elle fait.
Moi, tu vois ce qu'elle fait en tout cas. Et du coup, elle avait un travail, elle écrivait du contenu en fait.
Ouais.
Et du coup, à côté, elle a arrêté d'écrire parce qu'elle n'arrivait plus à écrire, quoi. Mmh. Quand elle rentrait chez elle le soir, elle n'avait pas envie d'écrire des blagues, tu vois, en fait, le moment où elle a arrêté ça, je crois qu'elle allait bosser dans un food truck, un truc qui vendait des burgers, elle s'est remise à écrire.
Ouais,
à faire des
est-ce
blagues.
Que ton boulot alimentaire doit être lié à ton boulot?
Ouais, c'est ça.
De
parce qu'en même temps, je pense que l'intuition de départ, c'est bah oui, je veux écrire, donc je vais faire un boulot où j'écris toute la journée, comme ça je deviendrai meilleur. Et en plus, à côté, je serai meilleur pour faire mon art, tu vois.
Alors, ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que tant qu'à faire un boulot alimentaire, c'est cool de faire un boulot alimentaire dans lequel t'es bon. Et quand ça repose sur une forme d'artisanat comme le dessin, je vais pas dire qui peut le plus, peut le moins, mais si jamais t'essayes de dessiner des histoires et des choses comme ça, c'est qu'a priori tu dois être pas trop mauvais pour dessiner un baril de soupe. Donc
ouais, mais dans l'autre sens, si tu passais tes journées à dessiner des barils de soupe en te disant j'aime pas dessiner des barils de soupe, ça me saoule par exemple,
ouais.
Est-ce que t'aurais encore la motivation le soir de dessiner tes histoires?
Alors non. C'est une erreur de penser que ça te laisse du temps après parce que t'es vide de toute façon, donc t'as plus envie le soir de faire tes trucs. En revanche, moi, c'est dans les moments où j'ai fait des boulots qui me faisaient le plus chier que j'ai eu mes meilleures idées. C'est qu'en fait, cette frustration, elle te ronge tellement qu'elle est super productive, je trouve. Et je pense que la mauvaise solution, c'est de glisser de l'alimentaire dans ton boulot de passion, c'est-à-dire faire de la BD que tu trouves merdique, mais te dire « ouais, mais ça marche ». Tu vois, cachetonner dans ton boulot de passion, c'est là pour le coup, c'est sûr que tu vas te tuer tout seul parce que t'as tué dans l'œuf ton truc. C'est pas mal. Moi, je pense que le bon compromis, c'est de trouver la version boulot supportable, de voire plus que supportable en plus, mais qui quand même reste au moins soit le même geste, soit le même. Tu vois, je me dis si mes BD marchaient plus du tout. Je pense que je préférerais vraiment, vraiment redessiner des choses que je trouve pas extraordinaires, voire qui sont un peu à l'encontre de certaines de mes opinions, plutôt que de me dire que je retourne à... Enfin, je peux pas comparer ça à un boulot qui est physiquement pénible, comme bosser dans un food truck, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je préfère quand même être pas trop, trop loin, au moins du geste que j'aime faire, qui est toujours, qui me rend quand même toujours un petit peu heureuse quand même, tu vois. C'est quand même toujours cool de dessiner. Et j'imagine que c'est quand même toujours cool d'écrire, mais peut-être que je me trompe.
Est-ce que tu penses en plus que la pratique du dessin, notamment dans la pub, ça t'a fait beaucoup progresser pour ensuite? Ou est-ce que ça t'a servi quand même?
Ça m'a servi et desservi, parce que de toute façon, dessiner 10 heures par jour, le dessin, c'est que de la gym. Plus tu dessines, mieux tu dessines. Il n'y a vraiment aucun mystère. Et moins tu dessines bien. Donc voilà, c'est sûr que c'est...
Ça se perd si t'arrêtes de dessiner? Parce que parfois,
Quand tu reviens de vacances, tu dessines mal. Tu dessines mal pendant le même temps que le temps où t'es parti.
Et donc, il faut remettre la machine en marche.
Il faut rechauffer et puis tu t'énerves tout seul. Tu fais « Ah, mais putain !» Et tu dessines et chaque trait est moche. Et puis en fait, et à l'inverse, quand t'es en bouclage, donc que tu chauffes à fond, que tu dessines jusqu'à minuit tous les jours, ça va vite. C'est tellement simple. Ta main, elle t'obéit parfaitement. C'est génial, quoi. T'as vraiment un...
Tu t'es mis une sorte de... Est-ce que t'as une routine de genre... Est-ce que tu dessines tous les jours ou
Je dessine tous les jours, de toute façon, oui.
Ouais, pour pas oublier, par exemple. Si jamais, à chaque fois, ça te reprend plusieurs jours de revenir à ton niveau.
Non, mais,
du coup, il doit y avoir un côté, merde, j'ai pas dessiné aujourd'hui.
Là, j'ai vraiment fait beaucoup de promos depuis un an. Donc, je fais de la promo plus que je travaille vraiment. Et du coup, quand, dans le rush, je dois vraiment produire un truc vite en dessin, genre, un dessin ou une mini BD et tout, je trouve que ça se sent. Ça se sent que faut que ça redémarre, quoi. Et au début, vraiment, la machine est froide, quoi. C'est un peu longuet à redémarrer. Mais en fait, ça revient vite, puis c'est plutôt agréable. Puis en plus, ça revient quand même de plus en plus vite. C'est-à-dire, même si, je pense que c'est comme n'importe quel sport, t'arrêter un mois quand tu viens de commencer, c'est fini. T'arrêter un mois quand ça fait 20 ans que t'en fais tous les jours, ouais, bon, tu vois, ça redémarre, c'est bien. Qu'est-ce que tu me demandais à la base ?
Ouais, je sais qu'il y avait une question à la base, je l'ai complètement oubliée. Je fais ça assez souvent sur, sur ce podcast. De toute façon, j'avais une autre question aussi intéressante. C'est quand tu fais un truc que t'aimes, comme dessiner, et que tu commences, disons, t'en parlais, je crois, dans le podcast justement avec Clémence, il y a un genre de syndrome de l'imposteur où t'as pas envie de... Enfin, t'arrives pas forcément à te vendre parce que tu te dis, mais pourquoi je me vendrais alors que je ferais ce truc gratuitement ou que je l'ai toujours fait gratuitement, tu vois. Et moi, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas mal ressenti. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont du mal à se vendre quand ils font un truc qu'ils ont pas l'impression qu'on devrait vendre normalement, tu vois. Et comment t'as fait justement, toi, pour arriver à, au bout d'un moment, à vendre tes dessins, quoi? Ou à vendre tes projets vraiment artistiques, tu vois?
Mais moi, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai été toujours entourée par des gens qui étaient assez clairvoyants sur ce que j'avais envie de faire et qui m'ont plutôt toujours poussée dans cette direction-là, tu vois. Par exemple, j'ai souvenir vraiment d'un, je me souviens d'un texto de mon éditeur à un moment où justement j'étais un peu à la croisée de plusieurs projets. Un qui était un peu argent facile, comme on dit dans Terminator, quoi. C'est-à-dire, c'était pas forcément, c'était un peu la solution évidente. Un qui était un bon compromis à mi-chemin. Et puis un qui était un projet qui allait me prendre un temps fou. En plus, je m'étais lancée dans le fait de tout faire au crayon. Et puis avec un sujet qui n'était pas forcément le plus vendeur et tout. Et je me souviens qu'il m'a envoyé un texto. Il m'a dit, en fait, il faut vraiment que tu fasses celui-là, quoi. Il m'a dit, si je suis un bon éditeur, mon rôle, c'est de te dire de faire le difficile et de le faire maintenant parce que tu as vraiment envie de le faire, quoi. Et donc, il m'a dit, puis en fait, ça va pas être si difficile que ça. Et puis, il m'a vraiment poussé à faire ce bouquin-là. Donc, je suis vraiment assez bien entourée, je pense. Parce que sinon, je me serais dit, je vais prendre celui où justement, j'ai le moins de travail de vente à faire. Donc, c'est cool.
Donc on revient à l'importance des gens qui t'entourent.
De l'entourage, ouais, c'est sûr. Et avant ça, mon agent, quand je faisais de la pub, elle était aussi comme ça. Enfin, je suis toujours tombée vraiment sur des gens...
T'avais une agent quand tu faisais de la pub ?
Ouais.
Ok.
Ouais, parce que sinon, ton boulot, c'est harceler les gens pour te faire payer. C'est un enfer, en fait, de travailler avec des agences de pub et des trucs comme ça si t'as pas quelqu'un qui t'aide, quoi.
Et donc, il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont des...
La plupart.
Ouais. Ok. Parce que les freelances, par exemple, dans la tech et tout, ils n'ont pas d'agent, quoi.
Parce que les budgets ne sont pas les mêmes. Donc, j'imagine que quand tu es dans des... Par exemple, tu vois, ça n'existe pas dans plein de domaines de graphisme ou pour des choses de pige et des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas un budget suffisant pour se partager ça. En pub, en général, quand tu bosses pour une agence de pub, elle a un budget pour l'agent, en fait. Tu vois, c'est déjà pensé. Mmh. Et tu peux te dire, c'est quand même dommage de lâcher 30%, parce qu'il faut le dire, hein, à un agent. Et en fait, c'est vraiment le meilleur calcul du monde de donner 30% à un agent, parce que tu peux avoir le loisir de faire ton travail, toi, pendant ce temps. C'est-à-dire que plutôt que démarcher, relancer et dire, sauf erreur de ma part, ça fait 90 jours et vous m'avez pas payé, et prochaine étape, j'envoie un recommandé et machin. Non, en fait, toi, tu dessines et ton agent, les menaces de mort pour que tu sois payé, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des agents pour tout. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, moi, je travaille maintenant plutôt aux États-Unis et la plupart des agences et des choses comme ça veulent pas travailler avec des gens qui ont pas d'agents. Parce qu'ils disent, mais ça va être trop compliqué, on va passer notre vie à parler de fric. Et c'est hyper normal d'avoir des agents pour tout.
C'est hyper intéressant, ça. Parce que pour le coup, il va sûrement y en avoir pour. Parce que plus il y aura d'indépendants, plus il y aura de freelance, qui est un peu la tendance, là.
Ouais.
Plus il va y avoir d'agents, quoi,
a priori. Ouais. Et moi, je connais pas mal de gens qui ont cette fibre de très bien vendre le travail des autres. Tu vois, qui savent toujours bien et te parler du travail des autres et qui sont hyper bons pour. Revigorer les gens qui ont pas la foi et qui disent putain en ce moment je galère, qui dit mais attends mais déjà tu devrais refaire ton book, faire tel truc, appel machin et tout, tu dis mais toi tu t'en rends pas compte mais t'as tellement une fibre d'agent, tu prends 5 personnes qui ont un talent auquel tu crois, si toi tu penses que t'as pas du tout de fibre artistique mais que tu connais autour de toi des gens que tu trouves hyper talentueux et qui se sous-vendent et ça t'énerve parce que les gens qui se vendent le plus mal le travail d'un artiste c'est eux-mêmes, tu vois, t'es jamais bon pour te vendre toi, c'est normal, mais t'es très bon pour vendre le travail de quelqu'un d'autre en général.
Ouais, moi je suis toujours scandalisé par la manière dont les autres se vendent. Et ensuite, dès que c'est à moi de me vendre, je dis ouais, non, mais c'est pas grave, je vais le faire pour moins cher et tout.
Et ben en fait, je pense que t'as raison, c'est aussi un métier qui va émerger, je pense. C'est,
les auditeurs si, et auditrices.
Ouais, mais il y a tellement. Franchement, à chaque fois que je parle du fait d'avoir un agent à des gens qui sont dans des métiers où ça n'existe pas, Ils disent, oh, putain, mais c'est tellement ça qu'il me faudrait, quoi. Mais oui, et puis aussi, qui serait là pour les moments de doute, qui me dirait, mais non, allez, on te motive, on va y arriver et tout. C'est ton entraîneur de boxe, en fait, ton agent. C'est vital, quoi.
Et est-ce que tu penses qu'il y a des étapes dans l'art, dans le sens, j'ai un pote qui est réalisateur, et je pense que son but, c'est de faire un long métrage. Mais avant, il a envie de d'abord faire des courts métrages, etc. Tu vois. Et moi, je ne rassurerais pas de lui dire. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire un long métrage, tu vois, all in, écrire un long, etc. Mais je sais pas si j'ai raison, parce que j'ai déjà entendu cet avis qu'il fallait pas, qu'il n'y avait pas d'étape en fait pour créer un gros truc artistique, tu vois, et que plus vite t'essayais de le faire, et en fait plus t'avais de chances de le réussir, et plus vite t'essayais de respecter les étapes, et moins t'avais de chances de le faire, parce que finalement t'allais te bloquer à chaque petite étape et jamais finir par faire ton long, tu vois. T'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que tu t'es dit à un moment, par exemple, ah, ça, c'est un projet trop gros, il faudrait que je le fasse dans 10 ans ou un truc comme
non.
ça?
Non, alors ça, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai deux opinions complètement contradictoires par rapport à ce que tu viens de dire. je pense qu'il faut, dans tous les métiers de création, il faut vraiment garder une humilité de te dire, il y a une raison si on dit toujours qu'il y a des étapes intermédiaires. C'est pas juste pour rester scolaire et pour essayer de brimer les gens qu'on te dit, c'est pas idiot de commencer par un court métrage. En fait, c'est pas juste pour te dire, oh là là, doucement bonhomme, ça va le melon. C'est parce que, en fait, il y a des choses auxquelles tu, des complications auxquelles tu t'attends pas, qu'il y a une raison si ça prend du temps, si que tu peux pas dire, tu peux pas avoir le profil du tout de suite du mec qui dit, eh ben justement moi les règles, je les baisse, tu vois, j'arrive et je fais un long métrage. C'est pas voilà. Et à la fois je me dis, ouais, mais en fait, dans le cinéma, j'ai envie de dire ça, mais après, quand je l'appliquais à mon boulot, à moi, je me dis, ce serait complètement con de dire, j'attends un peu avant de me lancer dans une BD longue, tu vois, je serais, bah, du coup, comment tu vas savoir, enfin, vraiment, pour le coup, la BD, théoriser sur faire une BD, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut se lancer.
D'autant donc, que dans ton podcast avec, j'arrête pas de citer ce podcast, donc vous irez l'écouter,
il est
vrai qu'il est bien, je mettrai le lien dans la description. Tu parles de la nécessité d'être dans l'urgence.
Ouais.
Et de pas attendre, justement, parce que tu sais pas très bien ce qui peut arriver, tu vois. Moi, cette année, il y a un type que je connaissais qui est mort, que je connaissais pas si bien que ça, mais et je me suis vraiment dit waouh, je me suis dit waouh, le mec est mort, tu vois, ça se trouve il voulait faire un film, mais il l'a pas fait, tu vois, et je me dis bah ouais, c'est sûr qu'il y a sûrement des étapes à respecter, etc., mais en même temps, est-ce que faire maintenant le truc que t'as envie de faire, c'est pas la meilleure manière de le réussir? J'ai l'impression qu'il y a toujours des gars qui réussissent à faire des longs métrages, des trucs, tu vois, par exemple Orelsan, il a fait un long métrage, bon, il avait fait des clips et tout, mais il a pas fait 10 courts métrages avant, quoi, tu vois.
Ouais,
il s'est dit, bon, bah, je fais un long métrage, je me chauffe, tu vois. J'ai l'impression quand même qu'il y a une attitude où t'arrives
à... En fait, j'arrive pas à avoir une opinion très claire là-dessus. Je prêche toujours pour, tu vois, mollo, tu vois, l'humilité, demande aux gens, parce que ça peut pas être si simple, etc. Et en même temps, ça me paraît idiot de s'inventer des étapes intermédiaires, que tu peux pas brûler, parce qu'en fait, ce sera les mêmes problèmes à une échelle plus grande, donc.
Pour le coup, je prends peut-être le mauvais exemple, parce que c'est que Olsen, c'est un mec qui est super entouré, qui travaille depuis hyper longtemps et tout, mais je me dis que si tu sais déjà quel est ton but, tu vois, c'est un peu comme quand tu fais carrière et que tu te dis, ouais, j'ai trop envie d'être de. J'arrive pas à trouver un exemple pertinent. Mais du coup, et que tu te dis, bah, mais pour y arriver, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça. Alors que souvent, en fait, tu peux déjà le faire si tu choisis un peu un autre chemin. Tu vois. Tu sais, il y a des mecs qui ont fait Paranormal Activity, quoi. Avant, ils ont pas fait. C'est un film qui a coûté 10 000 balles. Bon, c'est l'exemple qui confirme la règle. Enfin, l'exception qui confirme la règle, quoi. Je sais pas si c'est un très bon exemple, mais quand même.
Bah, ou sinon, tu peux même d'ailleurs aller plus loin que ça et te dire, parce qu'au pire, si je veux directement faire un long métrage. Mais que j'ai pas fait de court métrage avant. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Au pire, je vais me planter.
Ouais.
En fait, ou ça va être pas très bien. Si jamais tu signes au début en acceptant ce risque-là, finalement, c'est vrai que c'est complètement con de te dire, ouais, mais l'usage c'est quand même d'abord de commencer par faire des courts, quoi. Tu dis ouais, mais si en fait moi je suis prêt à tout de suite me prendre un méga gadin avec mon long qui va être merdique, bon, bah c'est mon problème, quoi. Après, c'est un exemple particulier, le cinéma, parce que tu fous vraiment beaucoup de gens dans la merde si tu
c'est
fais
ça, voilà, le
si
cinéma...
tu fais un film qui marche pas.
Mais pas forcément, parce
et
que
surtout,
tu peux
si
faire...
Jamais, si jamais t'as réussi à ce que 200 personnes aient envie d'y aller avec toi quand même, alors qu'ils savent que t'as pas fait de cours avant...
C'est peut-être bon signe.
Alors, c'est soit bon signe, soit c'est pas ton problème. Enfin, tu vois aussi, c'est que tu te dis, les mecs, je vous ai pas forcé non plus, donc j'essaye de rapprocher ça de la BD. Quel risque tu peux prendre en te lançant dans une BD longue? Au pire, tu vas pas la finir. Au pire, elle va pas se vendre. Ouais, mais bon, c'est ton problème, tu vois, t'avais...
Et puis au moins, tu aurais essayé de le faire, quoi. Au lieu de te dire, je ferais. En plus, ça se trouve, tu peux te dire, en fait, c'est pas du tout mon délire de faire une BD longue.
Ouais.
Et si tu l'as fait maintenant, tu le sais déjà maintenant plutôt que dans 10 ans après avoir fait toutes les étapes.
Et puis aussi, commencer par un long métrage ou par une grande BD ou par tout ça, c'est un bon moyen de savoir si en fait ce qui te retenait, c'était pas juste la trouille, quoi. Parce que te dire oui, mais je préfère être prudent. Ouais, mais à quel point c'est de la prudence et à quel point c'est vraiment juste, t'oses pas, quoi, y aller. Donc, peut-être te dire, c'est peut-être que tu te rassures en te mettant des étapes intermédiaires obligatoires qui en fait sont un peu bidons. Je sais pas.
Ouais, moi je dis ça que dans le sens si tu es persuadé de savoir exactement où tu vas, tu vois.
Ouais.
J'ai l'impression qu'en fait les étapes intermédiaires elles servent souvent à savoir où tu veux aller. Mmh. Tu fais des petites choses et là tu te dis ah j'ai bien aimé ce petit truc, je vais faire la même chose mais en plus gros. Et alors que si tu sais exactement ce que tu veux faire, je me dis fais-le quoi, tu vois, il y a pas vraiment de.
Bah surtout dans des métiers d'envie, tu vois, comme le cinéma, comme l'écriture, comme tout ça, où en fait la seule chose qu'il faut c'est être sûr que t'es vraiment motivé. Dans le cinéma, parce qu'il va falloir que tu donnes envie à plein de gens tous les jours de bosser pour toi, donc t'as intérêt à avoir vraiment très envie. Dans ce que je fais moi, parce qu'il va falloir que tu donnes vraiment beaucoup d'heures à ce truc-là. Mais à partir du moment où t'as très envie de le faire, qu'est-ce que ça peut foutre à qui que ce soit que tu commences trop tôt à faire ton truc? Si t'as envie, c'est quand même un peu la seule chose qui compte, quoi. Puis en plus, tu fais de mal à personne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu mets pas des gens au chômage, t'es pas...
Je t'ai un peu fait changer d'avis, là.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, bah, merci beaucoup.
Ah, bah, ok, d'accord.
Bah, ouais, ouais. En fait, je me disais.
Tu t'es dit, c'est un bon mot de la fin.
Ouais,
c'est. Changer d'avis.
C'était... Non. Désolé, non, c'était pas vraiment pour.
Non, mais c'est bien.
Non, mais j'ai d'autres trucs, mais je me dis, je sais pas, on a parlé globalement de tout ce dont je voulais parler.
Ben, super, alors.
Ben, merci beaucoup d'être venu sur Nouvelle École.
Ben, non, merci à toi.
Si j'avais une question, si les gens qui écoutent ont envie de. Connaissent pas ce que t'as fait et ont envie de découvrir, tu leur conseilles quoi pour commencer?
Je leur conseille d'aller voir les culottés gratuitement sur le blog qui est toujours en ligne du Monde. Tu t'appelles culotté dans Google et tu peux lire tout mon livre gratuitement sur Internet. Et après, si tu trouves que c'était bien, pour me remercier, tu peux l'acheter. Et si jamais tu trouves qu'il est trop cher, tu peux attendre la rentrée parce que ça sort en poche.
Moi, je l'ai acheté en belle édition.
Ah, mais c'est sympa.
J'aime bien les beaux objets, en fait.
Oui, c'est... bah pour offrir, c'est mieux que d'envoyer un lien vers le blog du Monde, mais...
Bah là, je me le suis offert à moi, mais... Sinon, j'ai un Kindle pour les livres qui sont pas beaux.
Ouais.
Tous les livres qui sont pas beaux, je les prends sur Kindle.
Et la BD sur Kindle
Mais tu sais que les tiens, ils sont sur Kindle.
Ouais, je sais, mais...
Mais je me suis dit, en noir et blanc sur Kindle, ça va être naze, non? Enfin, il y a toute la colo et tout.
C'est surtout... moi, j'ai encore un peu un problème avec les versions numériques des BD, c'est qu'elles sont quasiment au même prix que le livre.
Ah ouais?
Et du coup, ce scandale de business me met hors de moi. Et... Parce que du coup, tu dis, mais où va l'argent, en fait? Alors du coup, parce que...
Bah, non, ouais.
On ne l'a pas fabriqué, on ne le stocke pas, on ne l'a pas distribué, donc... Parce que ça coûte super cher d'imprimer une BD, mais si elle n'est pas imprimée, du coup, pourquoi c'est si cher? Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle-école, underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelle-école.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle époque, je donne ça à l'ancienne.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.